L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. On était avec Saint Colomban, qui finalement édite une règle à la fin du 8e siècle, mais on s'aperçoit que c'est Benoît de Nursie qui l'emporte, alors qu'il était parti de plus loin, comme quoi, la tortue, le dièvre, tout ça.
Il y en a un qui part de l'Irlande et l'autre qui part de l'Italie, tu vois. Hein. Alors, il faut dire que, de l'aveu même, justement, de ce supérieur colombanien, on va dire, hein, la règle de Saint Colomban laissait trop de place aux initiatives, parfois risquées, des abbés. Et sur d'autres points, cette règle tellement ressemblait-elle à celle de Saint Benoît que l'abbé en question a préféré prendre celle de Saint Benoît. Alors, reste une grande question qui est à la fois d'ordre interne et externe de la vie monastique, mais aussi du droit canonique. Je parle du droit canonique tel que on l'a entendu jusqu'au Concile de Trente, c'est-à-dire au XVIe siècle. Selon les normes alors en vigueur, là nous faisons allusion à l'assemblage de ce que l'on appelait les décrétales, en somme, qui formaient l'ensemble du droit canonique de l'époque, même si ce dernier en tant que tel n'existait pas. Eh bien, cette règle, selon les normes alors en vigueur, compte tenu du fait que le droit canonique d'alors n'avait pas les mêmes formes que celles que lui donneront les conciles de Latran au XIIe et XIIIe siècle. Cette question est celle de la soumission des moines et des monastères aux évêques locaux. Ce pour le monde occidental, le problème n'était pas le même en Orient, mais en particulier pour l'Église de Gaule. Et ici, nous touchons à un des grands problèmes de l'Église gallicane et de ses particularismes. Excusez-moi, l'historien verra qu'ici prennent naissance les racines de ce qui aboutira à une problématique qui aura des répercussions significatives sur les uns et les autres. Il reste clair qu'une règle normative s'imposait pour empêcher les risques de dérive des uns et des autres. Dérive des monastères qui se soumettent totalement aux moines au point de ne plus exister, des évêques qui dominent les monastères au point de faire que ils sont les deus ex machina, du roi qui décide de tout et pour n'importe qui. Bon, pour éviter les dérives, il fallait des règles. Hein. Et ces règles, dont celle de Benoît, eh bien, ont fini par donner d'immenses richesses spirituelles, d'abord aux moines, et puis, en organisant la vie des monastères, être à l'origine de grandes richesses matérielles et immobilières. Mais, justement, il fallait gérer cela pour éviter, là aussi, des dérives, car le pouvoir et la possession sont tentants. Et il fallait des règles pour organiser cela. Alors, en fait, l'influence des moines s'exerce surtout dans le monde rural. Nous avons vu le but qui était l'évangélisation par les travaux agricoles, l'enseignement et les travaux techniques, artistiques, culturels, architecture, etc.
Ce qu'on appelle un travail de bénédictin.
Tout à fait. Et alors c'est là que pouvoir et contre-pouvoir se conjuguent et s'affrontent. Cela a été très perceptible entre les 6e et 7e siècles, entre l'opposition et parfois l'entente et parfois l'opposition du jeu évêque-monastère, monastère-évêque. C'est pourquoi, en ce temps-là, il fut établi que les monastères et leurs moines seraient soumis à l'autorité des évêques diocésains. Et oui, ça paraît curieux, mais il fallait une autorité.
Et c'était avant qu'il y ait des ordres.
Voilà. Il fallait qu'il y ait une autorité. Bon. Et il fallait qu'il y ait une autorité aussi pour protéger les monastères par rapport au pouvoir royal et seigneurial local. On verra d'ailleurs plus tard que le pouvoir des évêques ayant été nettement abusif, les moines se sont tournés vers le pape et vers Rome et ont progressivement demandé la protection et la tutelle de Rome, ce qui leur a permis de se dégager de toutes les autres tutelles locales et des risques qui incombaient à ces soumissions.
Ça allait de soi, ça, que le Vatican choisisse les requérants plutôt que les évêques ?
Force fut bien...
Il a fallu concilier et faire des conciles.
Je dis bien qu'il a fallu faire des conciles, et je dis bien force fut de l'accepter, car sinon, l'immense travail des moines risquait d'être annihilé. Hein? Alors, il avait été donc, revenons à nos moutons de l'époque... stipulé qu'aucun monastère ne pouvait s'établir dans un diocèse sans l'accord de l'évêque de ce même diocèse. De plus, si un moine voulait par hasard quitter son monastère pour une raison ou une autre, même une raison très valable, l'accord de l'abbé de ce monastère ne suffisait pas et devait être validé par celui de l'évêque du lieu. Ça, c'était pour éviter aussi les moines girovagues, c'est-à-dire ceux qui allaient un peu partout, vadrouiller,
Les moines mendiants, déjà.
Oui, mais pas toujours pour des motifs vraiment glorieux. Hein. Certains, c'était parce qu'on bouffait mieux ailleurs.
Ouais. Ah, bon. Ils ne voulaient pas des poules, quand même, rassurez-moi.
Ouf. Bon. Alors, quoique l'abbé resta en théorie maître de son monastère, il ne pouvait pas en sortir sans l'autorisation de l'évêque concerné. L'évêque veille à ce que l'abbé fasse respecter la règle. Et plus encore, bien sûr, je le dis avec une petite ironie, les droits de l'évêque en ce qui concerne les aspects financiers et les bénéfices. Homo homini lupus est, d'accord ? L'évêque eut même le droit de déposer les abbés, même s'ils avaient été élus selon les règles canoniques par les moines de leur monastère. Si par hasard, ces abbés s'étaient révélés récalcitrants. Bon. En 511, le concile d'Orléans durcit encore la chose en stipulant qu'une fois par an, les abbés devaient se réunir en un lieu fixé par l'évêque et selon son seul bon vouloir. Alors, le souvenir des antiques préoccupations des ermites et moines d'Orient, au travers de tous ces événements, ne s'était pas pour autant éteint. Et l'on avait gardé à l'esprit la crainte que pouvait susciter l'orgueil sacerdotal chez ceux qui pouvaient être tentés par une promotion sociale. Aussi, conserva-t-on la règle, voulant qu'il n'y ait de prêtre ordonné que selon les stricts besoins du monastère. Besoin laissé à l'appréciation de l'abbé concerné, et non à l'évêque, curieusement, et non à l'évêque, qui n'eut pas pouvoir de décision en ce cas, et devait s'en référer, en ce cas précis, au seul abbé concerné. Je dois ouvrir une parenthèse, je dirais qu'à partir des 10 et 11e siècles, il y a eu le mouvement exactement contraire, c'est-à-dire que de plus en plus de moines demandaient l'ordination sacerdotale pour pouvoir justement célébrer la messe dans le monastère. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Bon, alors, selon l'usage antique, les moines élisaient leurs abbés. Mais, là, je suis pinailleur. Est-ce que usage est forcément règle ou loi? Est-ce que l'on ne confondait pas droit coutumier avec règle intérieure ecclésiastique? Même si ces règles tenaient compte de droits traditionnellement reconnus. Si un moine, officiellement reconnu comme tel, fondait un monastère, il était admis dans les règles anciennes qu'il en soit l'abbé, à titre de fondateur. Ensuite, les abbés étaient élus. D'accord ? Mais, si l'exercice de ce droit venait à cesser, il devait donc laisser place à un abbé régulièrement élu par l'Assemblée des moines. Néanmoins, il pouvait proposer un candidat avant son départ ou sa mort. L'autorité épiscopale, qui veillait au grain, je rigole en disant ça, manœuvra progressivement pour s'ingérer dans ces élections. Et dès le VIe siècle, le nouvel abbé devait, avant toute prise de pouvoir, demander la bénédiction de l'évêque du lieu. De manœuvre en manœuvre, l'épiscopat obtient qu'en cas d'élection qualifiée ou qualifiable de douteuse ou controversée, les évêques jugent et tranchent. Bon, sans commentaire.
Christian Escoudé joue Brassens.
C'est formidable. C'est très très beau ce morceau.
C'est dans l'histoire. Oui, il n'y a pas l'amour. C'est dans l'histoire du monachisme animé et lu et raconté et écrit par Bernard Vachereau.
Voilà, oui, enfin.
Alors on en était aux moines qui devaient avoir l'aval pour succéder finalement les évêques. Oui. Quel pouvoir ces évêques ?
Ah oui. Eh bien justement, les moines ont très bien perçu le danger qui était évident, et de devenir en somme des instruments du pouvoir, des instruments de l'orgueil, des instruments de tout ce qui était à contrario même de leur volonté de vie spirituelle et d'évangélisation. Hein ? Alors, les moines, conscients du danger, des dangers, firent donc appel à la sanction royale qui put trancher en leur faveur. Alors, curieusement, le conseil royal usa pour cela du droit civil et non pas des décrétales qui formèrent, cela à l'époque, ce que l'on appellera plus tard, à partir du XIIe, XIIIe siècle, avec le Concile de Latran, le droit canon, qui n'était, rappelons-le, qu'un assemblage de codes disparates. Alors, il est intéressant de constater ici l'utilisation du droit civil pour trancher des problèmes religieux internes à l'Église. Le prétexte proclamé par le Conseil royal fut de prévenir toute tentative d'atteinte aux prérogatives royales. C'est là où on peut dire que quelque part, dépendre du roi nous a été bénéfique. Ça nous a permis d'aller à contrario d'une tentative de domination par le pouvoir épiscopal.
Quand vous dites « nous », vous mettez dans la position des moines.
Non ? Oui,
ah, d'accord.
Je mets dans la position des moines. Hein. Donc, cette utilisation est très très intéressante, car montre qu'elle peut être bénéfique. La règle civile, la règle laïque, peut être bénéfique à la règle religieuse. Ça va loin. De nos jours, notamment, dans l'esprit des lois laïques appliquées pour les religieux. N'est-ce pas ? Le prétexte, donc, a été excellent pour nous, et c'est un rappel qui a permis au monastère de se placer sous la protection royale au même titre que des particuliers. N'importe qui pouvait se placer sous la protection royale. Hein. Mieux encore, leur prérogative fut reconnue par le mundium. Le mundium était un code concernant la vie du siècle en langage ecclésiastique en vigueur en ce temps-là. Alors, grâce à ce nouveau procédé, les procès des moines étaient directement portés devant les tribunaux civils royaux et échappaient donc à ceux des évêques qui les auraient desservis. Mais, ayant quelques raisons de craindre les rancœurs épiscopales, les moines allèrent plus loin encore et sollicitèrent justement la protection papale de Rome. C'est dans la province ecclésiastique d'Arles qu'eurent lieu les premières demandes de monastères à ce sujet. En effet, Saint Césaire d'Arles, qui en 502 fut élu évêque de cette cité et qui à ce titre eut l'occasion de connaître ses confrères évêques, fut le premier à demander cette protection pour le monastère de femmes qu'il avait fondé. Plus tard, la reine Brunehaut, 543-613, reine et épouse du roi Sigebert, roi d'Austrasie, obtint par les mêmes moyens les privilèges pontificaux romains pour les monastères qu'elle avait établis en la ville d'Autun, ou plutôt au diocèse d'Autun. Alors, on a parlé donc de cette protection des monastères, on a vu la règle. Comment est-ce qu'on admettait des jeunes moines dans les monastères ? C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Initialement, le moine, ne l'oublions pas, reste dans la tradition orientale, tout de même. Il y a une vieille tradition originaire de l'Orient qui dit que le moine est d'abord un laïc. On ordonne prêtre l'un d'eux pour les besoins du culte, c'est tout. Tous les autres sont des laïcs. Et d'ailleurs, les moines entendaient bien garder ce même statut qui faisait leur originalité de vie. Avant de commencer, relevons qu'il était précisé que la réception des esclaves était interdite. Alors évidemment, ça choque à la compréhension moderne et à nos oreilles contemporaines. Heureusement. Bon. Mais dans le contexte de l'époque, cela n'étonnait pas, car sur beaucoup de points, la législation civile était restée très marquée par l'antique législation héritée des Romains, qui reconnaissait l'esclavage tout en recommandant des aménagements que l'on considérait alors comme humanitaires. Bah, selon l'idée que l'on se faisait alors de l'humanitaire. Les esclaves restaient la propriété de leur maître, même si l'on ordonnait de les traiter humainement selon les critères de l'époque. Tant que leur maître ne les avait pas légalement et officiellement émancipés pour en faire des affranchis, encore que le statut des affranchis n'était pas lui-même très clair, puisque souvent le maître restait maître de l'affranchi.
C'était un peu timbré, quand même.
C'était le mode de l'époque, et franchement, j'aurais pas aimé le vivre.
Hein. Oui, c'est un drôle d'affranchissement. Oui. Vous savez quoi? C'est la semaine prochaine que vous allez nous expliquer comment on peut rentrer dans un monastère quand on veut être un jeune moine. Vous êtes d'accord?
D'accord.
Merci Bernard Vacherot. L'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.